Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Okapi dans notre rendez-vous dédié à la promotion de nos valeurs et de notre identité. Pour ce numéro du magazine Identité culturelle, nous accueillons le professeur Emmanuel Kabongo-Malou. Ses travaux, axés sur la conscience historique africaine et l'identité africaine, nous éclairent sur l'urgence de forger une identité congolaise commune en RDC. Une question de survie, selon lui. Des penseurs congolais ont déjà alerté sur cette nécessité il y a plusieurs décennies. Le professeur Kabongo-Malou revient sur leurs travaux et plaide pour la création des conditions propices à l'amour du pays et à l'ancrage de l'histoire glorieuse du Congo dans la mémoire collective. Je suis Rosalie Zawadi et je vous dis bienvenue.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Professeur Emmanuel Kabongo, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous pour partager avec nous une analyse que vous avez réalisée sur les besoins d'avoir aujourd'hui en RDC une nation. Vous êtes remonter très loin dans les écrits de ceux qui ont vu la nécessité d'avoir cette nation. On commence en 1964, comme je l'annonçais.
Oui. Depuis notre indépendance, notre pays, la RDC, connaît une véritable crise de la culture. Quand on parle d'une crise de la culture, ça signifie que le peuple congolais, le peuple du Congo, n'ont pas su cultiver les valeurs de l'identité collective. Ils n'ont pas su cultiver la valeur de la solidarité, de l'amour de la patrie, de la responsabilité individuelle et collective. Donc toutes ces valeurs qui, ensemble, quand les peuples les cultivent, sont fondatrices de la nation. Parce que la nation, c'est celle-là, c'est-à-dire le vouloir vivre collectif dans la responsabilité collective, dans la solidarité, dans l'amour et dans l'amour de la patrie. Et chez nous, ces valeurs-là n'ont pas été cultivées. Et cela, c'est depuis 60. Et quand j'en parle aujourd'hui, tout ce que nous connaissons ici, toutes ces guerres ou des dominations qui nous viennent du Rwanda, de l'Ouganda, partout ici, toutes ces guerres ici, sont des guerres qu'on impose aux peuples qui n'ont pas d'identité collective. C'est-à-dire des peuples qui sont incapables, n'est-ce pas, de se déterminer pour réagir. Pourtant, toutes ces guerres ici sont des chroniques des guerres annoncées. On avait déjà averti les Congolais qu'il y aurait des guerres, que les gens viendront ici pour nous imposer l'esclavage, pour nous décimer, comme le fait le Rwanda, et que si nous ne nous préparons pas, nous allons sombrer. Et cela, c'est depuis les années 60. Je prends d'abord les premiers penseurs qui avaient donné l'alerte, c'est Mabika Kalanda. Dans son livre sur la remise en question, Mabika nous dit « Il faut faire attention. Nous risquons d'avoir des problèmes si nous continuons à gérer ce pays comme il est là. » Pourquoi Mabika se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? En 60, quand nous prenons l'indépendance, une année, deux ans, trois ans, quatre ans après, Mabika constate que le pays n'est plus capable de donner de la nourriture à sa population, n'est plus capable de construire, n'est-ce pas, le bonheur. Pourquoi? Parce que, il se pose la question, parce que ces pays, le Congo ici, avant l'indépendance, avait le même niveau de vie qu'un Canadien, qu'un Italien, un Espagnol. Comment, après l'indépendance, nous devenons incapables de nourrir notre peuple? Alors que les usines qui faisaient le bonheur des Belges et de tout le monde sont encore là, opérationnelles. Alors Mabika constate qu'il y a une sorte d'inconscience collective, que les hommes politiques de ce moment-là sont des hommes politiques inconséquents dans les actes publics et dans les actes privés. que ces hommes politiques sont aliénés et travaillent pour les dominations étrangères. C'est ainsi que Mabika dit, il faut faire attention. En faisant cette gestion calamiteuse que vous faites du pays, vous allez conduire notre peuple à ne pas aimer ce pays et nous risquons de le perdre. Et il dit, le peuple, d'autres peuples viendront ici pour nous décimer, pour nous imposer l'esclavage. Si nous continuons à travailler dans ces pays sans conscience collective, sans conscience historique, sans conscience nationale. Parce que les gens sont inconséquents, les hommes politiques sont des vendeurs de bière, les hommes politiques ne s'intéressent qu'au champagne, comme ça se passe maintenant. Et il dit, faites attention, si vous continuez comme ça, dans quelques années, nous allons perdre le Congo. Et effectivement, je me suis dit, mais Mabika a dit ça en 1960, c'est-à-dire en 64-67, quand il a publié la remise en question. Est-ce qu'on peut voir comment la situation va évoluer? Et la situation va évoluer de mal en pis parce que quand nous arrivons dans les années 70, donc 10 ans après Mabika, il y a un autre grand écrivain, un autre grand penseur, Yves Moudimbe, qui publie Le Bel Immonde, Chaba 1, Chaba 2, et il dit « Le Congo est devenu et géré dans une immoralité politique qui ne peut pas conduire la patrie au développement. » Et c'est d'ailleurs pour cela que lui-même quitte le Congo et s'en va vivre aux États-Unis. Et je regarde, je dis, mais il faut suivre un peu. Est-ce que ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé parce que 10 ans après Moudimbe, Rudolf Ulunga Kabongo, un autre grand penseur du Congo, sonne l'alerte. Il écrit le Congo dans un marécage. Il dit qu'au Congo, il n'y a plus rien ne marche au Congo. Tout est fossilisé. L'immoralité politique dépasse. Il n'y a pas d'éthique politique. Il n'y a pas une pensée pour l'intérêt national ou l'intérêt général. Chacun fait du Congo ce qu'il veut. Et nous sommes dans ces années 80, quand Ilonka Bongo publie tous ces grands articles. Et d'ici, dans les années 90, tout d'un coup, on voit en 96-97 toute la horde de Rwandais qui viennent et qui envahissent le Congo. Et à partir de juillet 1997, le Congo a perdu sa souveraineté interne parce que depuis ce temps-là, le Congo a été toujours occupé. Et Mutamba Makombo pouvait constater, dès qu'on a créé le comité international pour le Congo, les SIAT, le fameux SIAT pour la transition au Congo, Mutamba Makombo, le grand historien, constatait, il dit, voilà, ce que Ilunga Kabongo avait dit, ce que Moudimbe avait dit, ce que Mabikalanda avait dit, ça vient de se réaliser. Le Congo est placé sous la gestion internationale, c'est-à-dire que le Congo est incapable de se gérer lui-même.
Merci professeur de nous avoir présenté ces parcours, ces alertes au cours des décennies, mais aussi à votre niveau, vous êtes intervenu pour faire entendre cette alerte.
Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, madame. Nous sommes constitués en un groupe de penseurs avec feu professeur Bioya, avec le journaliste Moulumba Freddy et moi-même. Et nous avons commencé à faire des conférences sur Télé7 pour dire aux gens, nous changeons de comportement. Nous nous conduisons dans notre propre pays comme des mercenaires. Quelqu'un trouve un petit poste, paf, il ne fait que voler. Pourquoi est-ce que les gens volent quand ils sont au pouvoir d'État? Parce que justement, ils n'ont pas conscience d'appartenir à cette nation congolaise. N'est-ce pas? Ils se disent que eux, ce sont des chefs, des rois, ils n'appartiennent pas à la basse classe que où nous sommes. Et donc, ils peuvent voler de l'argent. Donc, ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à la patrie, à la nation congolaise. C'est ce sentiment-là. Comme il n'existe pas, fait que les gens vivent comme des atomes non crochus. C'est-à-dire qu'on vit séparément. Chacun vit comme il veut, séparé des autres. Et nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble pour gagner des combats. Et je rappelle que le combat de la terre que nous sommes en train de perdre dans le Kivu, ce n'est pas le premier combat. Il y a eu d'abord le combat de l'économie que nous avons perdu, qui est dans les mains des étrangers, des Chinois, des Indiens, des Catalans, des Espagnols, mais pas des Congolais. Il y a le système financier congolais qui est dans les mains des Tanzaniens, des Kenyans, même des Gabonais, même des Camerounais. Il n'y a aucune banque qui appartienne aux Congolais. Donc, tout ça, c'était des combats perdus. Nous avons perdu même le combat de la culture. Au Congo, ici, quand on dit à quelqu'un, mais quelle est la culture congolaise? Je dis, oh, ben, nous aimons danser, Oui, nous nous aimons chanter, nous sommes des sapeurs. Non, mes amis, c'est pas ça la culture. La culture, il y a la culture idéologique, c'est-à-dire, nous les Congolais, qui sommes-nous devant le monde, devant les autres Africains? Qui sommes-nous devant le monde entier? Nous les Congolais, nous sommes les inventeurs des mathématiques, l'os du Shango. Nous les Congolais, nous sommes parmi les premiers peuples à apparaître en Afrique, après l'Égypte ancienne. Après l'Égypte antique, nous les Congolais, nous avons un parcours très, très notable d'un grand peuple. Nous les Congolais, nous avons une grande histoire avec les Kimbavita, les Lumumba, tout ça. Donc la culture d'un peuple, c'est son histoire. La culture d'un peuple, c'est ses langues nationales. La culture d'un peuple, ce sont sa psychologie nationale. Ce n'est pas toutes ces histoires qu'on raconte de sport et des trucs. Mais en fait, ça, c'est la culture populaire. Elle est immédiate, elle est de courte durée. Elle est une réponse immédiate face aux besoins immédiats. Donc, moi, j'ai dit, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, tout ce que vous voyez ici, on dit éveil patriotique et tout ça, c'est ça. Ils ont compris que le Congo n'a pas été une nation, que le Congo n'en est pas une. Parce qu'on dit aux gens, maintenant, il faut aimer les pays. Bah, les gens ne vont pas aimer les pays parce qu'on leur dit d'aimer. Les gens vont aimer les pays si on fait ce qu'on appelle l'algorithme salarial. Tant que les gens continueront à toucher 80 000 francs, 140 000 francs, 250 000, 500 000 francs, il n'y aura pas de Congo. Parce que le partage des richesses est mal fait. Le patriotisme, l'amour de la patrie n'est pas une chose gratuite. Il faut que les pays s'occupent du peuple, qu'il leur donne sa sécurité. Alors les militaires ne pourront pas fuir avec une arme devant l'ennemi. Mais si les militaires, depuis 1000 ans, ont payé 80 000 francs, 100 000 francs, alors qu'il y a des gens dans ces pays inutiles qui... Non, alors là, on va nous l'arracher. Parce que moi, je suis convaincu que ces gens-là vont quand même venir nous arracher ces pays. Parce que tant qu'on n'aura pas changé, tant qu'on va même lever patriotique et faire dans un truc de flou artistique, et les gens viennent avec de longs discours inutiles, c'est pas ça qu'on fait. Quand on explique un peuple, on dit, voilà, mes amis, nous avons commis des erreurs, ce pays nous appartient, nous allons mettre fin à la misère endémique en faisant un bon partage salarial. C'est-à-dire, on va monter les SMIC, on va payer des gens... Le huissier a 300 dollars, et puis le président de la République lui-même, on doit connaître son salaire. Et puis, on doit fonctionnariser tous les postes politiques. On ne peut pas continuer à donner de l'argent aux politiciens, alors que ceux qui produisent cet argent-là, les travailleurs, la force ouvrière, ne gagnent rien. Et j'annonce même que nous allons créer un parti politique pour les partages équitables des richesses nationales. Et ce parti-là va s'imposer ici, parce que nous allons fonctionnariser tous les postes politiques. On ne peut pas justifier que des personnalités comme ça bouffent tout l'argent du pays et les gens souffrent et on va nous demander... Non.
On va vous demander d'aimer les pays.
Oui, c'est-à-dire ils sont totalement inconscients. Et même la campagne-là, elle est faite de façon, sans finesse, sans compétence. On ne sait même pas ce qu'ils veulent.
Alors, professeur, nous parlons de la construction de l'identité nationale. Dans votre analyse, vous avez dit que c'est l'absence de cette identité qui fait que nous soyons comme nous sommes, qu'on ne se retrouve pas dans ces pays.
Mais enfin, c'est ça, madame. C'est parce que le Congo n'a pas d'identité collective. Ça veut dire quoi? Les Congolais que vous voyez ici n'ont pas le sentiment d'appartenir à une même communauté d'origine. Ils ont l'impression, chacun recourt à sa petite tribu, à son petit village. On ne leur a pas appris à tous ces Congolais ici que nous sommes venus ensemble de l'Égypte ancienne, en passant par le Nigeria et puis par les Katanga jusqu'à venir où nous sommes ici. Que toutes les grandes tribus congolaises, il y en a quatre. Ce qu'on donne ici comme tribus, là, c'est des bêtises. Les tribus sont liées à des grandes langues, à des grandes aires culturelles. Donc tous ces gens-là sont venus de l'Égypte ancienne. Et c'est ça notre source, notre origine. C'est cette origine-là que nous considérons comme notre date de naissance commune. Toutes les petites tribus qui sont venues, ça, les sous-tribus, ils sont venus parce que quand le peuple, dans sa migration, se sépare, n'est-ce pas, de quelques kilomètres et puis des centaines de kilomètres, les langues commencent à se former autrement. Il y a eu des spécificités linguistiques qui entrent, à cause du milieu, à cause de la séparation, à cause de la distanciation. Donc, culturellement au Congo, nous avons quatre grandes aires culturelles, mais qui sont d'origine commune. Vous voyez, toutes les langues que nous parlons dans ces aires-là, ce sont des langues bantoues qui ont des mêmes critères, qui ont des mêmes systèmes phonétiques, linguistiques et tout ça, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons vraiment former une culture congolaise, nous devons nous baser sur trois éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est l'histoire commune. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette histoire a été étudiée par Cheikh Anta Diop, qui a démontré que nous, les peuples africains, nous venons tous ensemble de l'Égypte antique. C'est ça notre source. C'est ça ce qui font de notre unité culturelle, n'est-ce pas? Et puis que nous, toutes les langues que nous parlons ici, sont les langues bantoues, sont des langues africaines qui ont une même morphologie, une même phonétique, et cela a été démontré par le grand linguiste Théophile Obeng. Alors, si vous voulez donner à un peuple sa dignité, sa détermination, sa force, il faut lui apprendre son histoire, n'est-ce pas? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la société? Nous, le peuple congolais ici, nous avons fait beaucoup de choses pour l'humanité. Donc, nous sommes, toute l'histoire de l'humanité s'est passée chez nous ici. La sapientisation, la sédentarisation. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire face au monde. Nous n'allons pas nous réduire au football, nous réduire à la SAP, nous réduire, je ne sais pas moi, à la danse, de la bêtise. Donc, nous disons, le Congo a encore des chances d'être une grande nation. Toutes les grandes nations qui le sont devenues ici, toutes les nations qui sont devenues des grandes nations, la Chine, l'URSS, l'Amérique, ont connu de grandes guerres et ont répondu par de grandes ripostes. Et ils ont gagné leur liberté et leur force. Et nous aussi, nous attendons que dans ces pays, il y ait une grande riposte face à tout ce qui se passe, que nous voyons en train de se passer dans ces pourtours de l'Est.
Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo.
Chanson et Balé à Congo que nous dédions à tous les auditeurs des Radio Okapi. Nous poursuivons notre entretien avec notre invité, le professeur Emmanuel Kabongo Malou, sur la construction de l'identité nationale congolaise. Professeur Kabongo Malou, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour ramener les Congolais à cette identité-là?
L'identité est une connaissance. Il faut la donner aux gens. Donc, commençons d'abord par des choses les plus simples, c'est-à-dire la congolisation des études au Congo. Dans notre pays, les programmes sont très mal conçus. Jusqu'à ces jours, je vois mes petits-enfants, les enfants de mes frères, qui viennent ici dans leur cahier, on voit, ils étudient les États-Unis d'Amérique, ils étudient la Chine, ils étudient l'Australie. Je dis, mon Dieu, quelle bêtise! Nous devons congoliser les études congolaises à partir de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Ça dit quoi? Introduire l'histoire nationale comme une matière scientifique obligatoire à tous les niveaux. Que ce soit à l'école primaire, les enfants doivent connaître leur quartier, ils viennent de quel quartier, de cette commune, et puis de leur ville. Jusqu'à l'école primaire, ils étudient tout ça. Et quand ils passent à l'école secondaire, ils commencent à étudier le Congo des origines à nos jours. Nous avons des grands chercheurs qui ont écrit ces livres. Il y a le professeur Naïwel, il y a Elikia, tout le monde a écrit sur ce Congo-là. Notre origine antique, égyptienne, la formation de nos langues nationales, de nos langues vernaculaires, tout ça, c'est étudié à l'école secondaire calmement. Et puis après, à l'école secondaire, nous élaborons une histoire nationale que nous voulons nous-mêmes, de notre origine égyptienne. Nous allons élaborer et arriver à des Lumumba, à des Kimpavita, c'est-à-dire à des Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire des gens, des Kulu, à des Paul Panda Farnana, les Mukalamushi, ceux qui ont fondé notre goût de liberté, ceux qui ont fondé la liberté au Congo. C'est comme ça que l'histoire, c'est notre propre histoire. Nous l'écrivons quand nous voulons et comme nous voulons et personne n'a pas de leçons à nous faire. Et le peuple va se retrouver dans cette moule historique. Et puis on va y ajouter l'importance des langues nationales. L'histoire humaine ici, c'est écrite dans nos langues nationales. Ce n'est pas écrit en français, c'est nos langues. Parce que ce sont nos langues là. L'histoire en fait c'est quoi? Ce sont les interactions entre l'homme et son environnement. Ces interactions sont codifiées dans les langues nationales. Donc cette histoire de venir encore nous maltraiter avec les Français, comme disait le professeur Béninois, il dit... Nous avons accepté des expressions françaises qui ne disent rien dans nos langues nationales, qui ne disent rien du tout. C'est ça l'aliénation. Il faut casser ce cycle de l'aliénation. Et puis, nous avons notre psychologie commune, n'est-ce pas, nous Congolais, nous avons notre psychologie commune, qui est la troisième caractéristique d'une nation, notre psychologie commune. Tout ça, il faut le fabriquer. Ce ne sont pas des choses à laisser aux étrangers. Vous trouvez dans quel pays est-ce que vous trouvez quelqu'un qui vient ici, un Coréen, il fait une école jusqu'à l'université. C'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est l'éducation nationale, c'est une éducation de l'État congolais. C'est ça sa première mission. Il ne peut pas laisser ça dans les mains des individus qui font de cette éducation nationale un marché pour s'enrichir. Tout ça, ça doit s'arrêter.
Là, c'est au niveau des jeunes qui doivent grandir en maîtrisant ce qui est l'histoire de la RDC. Mais pour aujourd'hui, dans les contextes actuels où nous nous trouvons, les adultes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener à cette...
Mais d'abord, il faut... Ce qu'il faut faire maintenant, c'est avoir un casting dans le gouvernement, avoir un gouvernement des gens qui convainquent, soyons sérieux. Parce qu'on ne peut pas attendre que parce qu'un militaire est au front, on va lui envoyer $500. Non, nous décidons. Nous allons au Parlement, nous faisons une loi. Si on veut changer la Constitution, moi j'accepte conscience de la Constitution. Pourquoi? Parce que dans la Constitution que nous allons faire là, nous allons parler des droits économiques qui n'existent pas dans notre Constitution. Nous allons dire aux gens, le salaire d'un Congolais doit lui être en mesure de lui permettre de louer une maison, de manger avec ses enfants, de les envoyer à l'école. Fixons-nous. On fixe. Nous n'allons pas changer de constitution parce que nous voulons donner un mandat à Tshisekedi, non. Nous allons changer de constitution parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Nous allons mettre fin aux carrés miniers. On ne peut pas avoir des carrés miniers pour des individus. C'est quoi, dans quel pays est-ce que vous trouvez des carrés miniers, des milles qui appartiennent à l'ensemble de la population, sont partagés par des individus qui vivent chaque mois, il a $20 millions. C'est quoi ça? Ça existe où? Mettre fin aux carrés miniers. Maître, nous allons petit à petit changer de programme des études. Nous allons fonctionnariser les postes politiques. Il est inacceptable que
les gens là, et les présidents de la République, et ses ministres, se fassent des cabinets pléthoriques. Ils bouffent tout l'argent de la nation sous prétexte que... Mais si oui, ils bouffent 60%. Les parlements bouffent 30%. Il nous reste au peuple congolais combien d'argent ? Rien du tout. Donc ces gens-là acceptent de travailler pour la nation, mais comme des fonctionnaires de l'État. C'est comme ça que ça s'est fait. Nous devons arriver à ce niveau-là. Si tant que ce n'est pas arrivé à ce niveau-là, eux là et nous tous, nous allons fuir ces pays. Et regarde, moi je suis professeur d'université. Je suis impayé. Le mois de février, je ne suis pas payé. Tu me vois à la pied nu, incapable de payer de l'essence. Parce que les gens décident qu'eux peuvent être payés avant. Non. La justice sociale doit revenir. La plus grande vertu d'un pays, c'est la justice. Ça doit revenir. Dès que ça revient, vous verrez les gens prendre les armes ici, aller combattre calmement, tuer des gens là-bas et puis fuir. Tant qu'ils ont, on va se réveiller un matin comme ça, un professeur se réveille, ou bien un enseignant, ou bien un militaire, il dit non, mon salaire, non, ça ne peut pas continuer. Dans tous les pays du monde, il y a un algorithme salarial. On dit, les derniers touchent tel montant. Les premiers touchent tel montant. Entre les deux là, tout le monde vit. Et dedans, nous sommes tous des fonctionnaires de l'État. Il n'y a pas de poste politique.
Maintenant, en conclusion, professeur Emmanuel Kabongo-Malou, un conseil à tous les Congolais qui, peut-être, comme vous avez décrit la situation, ne se retrouvent pas dans cette identité nationale. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les ramener vers les Congos?
C'est ça. Je leur dis, les erreurs ont été commises. Mais si ces erreurs ont perduré, c'est parce que nous, Congolais, nous n'avons pas pris notre responsabilité historique. Un peuple signifie des gens capables de se mettre ensemble pour faire un combat et gagner. Pourquoi est-ce que nous avons perdu le combat économique? Pourquoi est-ce que les usines de tout appartiennent aux Chinois, aux Indiens et aux autres personnes, et même les hôpitaux? Parce que nous ne nous mettons pas ensemble. Les Congolais vivent comme des atomes séparés par un grand feu. Vous comprenez? Donc nous devons revenir comme des atomes crochus. Nous devons vivre ensemble, construire l'identité commune qui fera notre force. L'union fait la force. Donc nous devons revenir à ça. Si nous disons que non, ça ne va pas, nous laissons les pays dans les mains des bandits qui viennent là, nous allons tout perdre. Remettons-nous ensemble. Et c'est pendant la guerre que les hommes construisent leur identité à chaud. Voilà, aujourd'hui, les gens font des discours, il faut aimer le Congo, tout ça. Vous dites, oui, nous allons aimer le Congo. Mais nous allons aimer le Congo quand nous allons vous imposer nos règles. Nos règles, c'est quoi? C'est ce que nous allons faire là. Nous allons avoir des salaires conformes à la vie, n'est-ce pas? Nos enfants doivent apprendre à réagir comme les Congolais, c'est-à-dire comme Lumumba réagit. Ne jamais trahir le Congo. Nous, les Congolais, devons nous mettre ensemble. C'est-à-dire, profitons de cette guerre ici pour reconstruire rapidement notre solidarité nationale, et reconstruire rapidement notre confiance nationale, et reconstruire rapidement notre capacité de nous mettre ensemble et d'agir, n'est-ce pas? C'est ça. C'est comme ça que tous les pays là ont construit leur identité nationale pendant la guerre en Chine, pendant la guerre en URSS, pendant la guerre aux États-Unis. Donc la guerre ici, nous allons nous reconstruire, nous mettre ensemble et nous allons gagner.
Nous arrivons au terme de ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons abordé aujourd'hui l'urgence de forger une identité congolaise commune. Merci à notre invité, le professeur Emmanuel Kabongo-Malou, pour ses réflexions sur l'avenir de la RDC. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi et je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site radiookapi.net. À très bientôt sur les ondes de la Radio de la Paix. Portez-vous bien.